Je vous invite à ouvrir à nouveau la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1er. Et nous allons relire ce passage que nous sommes en train d'étudier. Donc chapitre 1, les versets 1 à 8. Apocalypse 1. À partir du verset 1, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et nous avons commencé à considérer la semaine dernière ce cantique qui s'élève au milieu du verset 5 et nous avons mis l'accent sur le présent, ce qui décrit le Seigneur Jésus-Christ dans le présent à celui qui nous aime. C'est une réalité encore aujourd'hui, c'est le premier mot dans la liste, celui qui nous aime, qui aime son peuple, quelque chose que le Seigneur Jésus-Christ fait constamment. Et nous avons repris les mesures que Paul mentionne dans Éphésiens, chapitre 3, nous avons parlé de la largeur de son amour, que le Seigneur aime un peuple qui est composé de toute langue, de toute tribu, de toute race, de toute nation. Et nous avons vu quelque chose de la longueur de son amour, un amour qui a commencé dans l'éternité passée, qui va se poursuivre dans l'éternité future et qui aujourd'hui est un amour qui est constant. C'est une ligne droite continue, ce n'est pas une ligne assurée, ce n'est pas des expériences, c'est une ligne droite qui est continue et qui ne change pas. Il nous aime à celui qui nous aime. Mais Jean va ensuite continuer à louer le Seigneur Jésus pour l'expression suprême de cet amour. Quelque chose que Jésus a fait dans le passé. Et Jean va souligner deux aspects de cette œuvre du salut. Et on pourrait, encore une fois, en reprenant les paroles de Paul en Éphésiens, dire qu'il parle de quelque chose de la profondeur et de la hauteur de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il dit « Celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. » Deux choses donc que nous voulons voir ce matin. La première, quelque chose de la profondeur, deuxième mot sur la liste, la profondeur de l'amour de Jésus. Il parle de sa mort de substitution. Jésus-Christ lui-même avait dit en Jean 15, verset 13, qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. C'est une œuvre qui est passée, c'est une œuvre qui est complète, c'est une œuvre qui est achevée. Il a donné sa vie, il a versé son sang afin de retirer la condamnation qui reposait sur nous, qui reposait sur son peuple à cause de nos péchés. Et Jean le dit ici d'une manière claire, Jésus nous a délivrés de nos péchés. Il nous a délivrés de nos péchés. Alors certaines versions ont traduit par « laver de nos péchés ». Mais l'expression que Jean utilise est une expression qui est très très puissante. L'expression littéralement veut dire « défaire les liens ». Et on peut par exemple l'utiliser pour parler de défaire ses lacets. Mais quand on parle de personne, il s'agit de défaire les liens d'un prisonnier, de libérer le prisonnier. Et donc, cela a amené à l'expression « libérer un esclave par le paiement d'une rançon ». Et Jean pense dans ce sens-là quand il écrit, quand il parle du Seigneur Jésus qui nous a libérés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et nous avons donc ici, bien sûr, une description importante de ce qui s'est passé à la croix, de la signification de l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie sur la croix. Qu'est-ce que cela veut dire quand on dit que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés? Cela veut dire qu'il nous a délivrés. Troisième mot sur la feuille, il nous a délivrés de nos péchés. Et il l'a fait en donnant sa vie, en versant son sang. Il nous a délivrés, il a payé la pénalité pour nos péchés. C'est ce qu'on appelle la substitution. Il a pris notre place. Il a donné sa vie pour satisfaire la justice de Dieu. On parle ici de substitution pénale. Dans les termes juridiques, on parle d'expiation par la substitution pénale. C'est quelque chose que beaucoup de personnes n'aime pas aujourd'hui. Pourtant, c'est quelque chose qui décrit le cœur même du salut. Le Seigneur Jésus-Christ est mort pour mes péchés, pour payer la pénalité, pour payer le prix de mon péché. Il m'a délivré de la condamnation que méritaient mes péchés. Il y avait une dette envers Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ a pris ma place. Il a pris la place de son peuple. Et il a payé cette dette parfaitement, entièrement. Il l'a fait en tant que substitut. Quatrième mot sur la feuille. Il est le substitut. Le Fils de Dieu est venu dans ce monde pour son peuple. Il est venu pour garder les termes de l'alliance de grâce dont nous avions déjà parlé la dernière fois. Et il s'est fait notre substitution. Il a versé son sang là où nous méritions de mourir à cause de nos péchés. Le péché était le nôtre. Le sang était le sien et il est capable de payer la pénalité de nos péchés et il l'a fait. Et il l'a fait entièrement. Il a versé son sang et payé le prix de manière parfaite. Et Jean donc loue le Seigneur Jésus pour cette délivrance. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Mais le langage que Jean utilise est celui de tous les croyants. Dans notre propre expérience, qu'est-ce que l'on ressent à la conversion? En premier, c'est la liberté. Cinquième mot sur la feuille. La liberté lorsqu'on réalise ce qui s'est passé, lorsqu'on réalise ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ à la croix. Que Jésus-Christ est mort pour moi, que mes péchés ont été mis sur le compte de Christ. Que mes péchés ont été payés, que la condamnation a été portée par le Seigneur Jésus-Christ, et que en conséquence, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cette conscience qui me faisait avoir peur de Dieu et de la justice de Dieu est maintenant libérée de tout poids, puisque c'est Christ qui a pris tout sur lui. Il n'y a pas d'autre mot pour exprimer cela qu'en disant, comme Jean ici, il nous a délivrés, il nous a libérés par son sang. Et Cette libération, bien sûr, comprend la délivrance de la culpabilité du péché, la délivrance de la colère de Dieu à cause de nos péchés. Mais il y a aussi la délivrance de la crainte, de la mort. La mort est un ennemi qui est terrible, mais nous n'avons plus besoin de le craindre parce que nous avons été délivrés de la crainte de la mort. Christ a vaincu la mort. Il a remporté la victoire sur la mort. Il est ressuscité. Et comme nous avons lu en Colossiens, il est la tête et tout le corps le suivra et ressuscitera avec lui dans la gloire. Christ a vaincu la mort. Nous n'avons plus besoin de la craindre. Il nous a délivrés de la culpabilité, comme j'ai dit, de nos péchés, de la honte d'une vie qui n'était pas vécue pour Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a bien annoncé, il a dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Les thérapies de ce monde, les livres de recettes qu'on peut trouver, dont « comment puis-je être ceci » ou « comment cela », elles n'ont rien à offrir. Elles n'ont rien à offrir. La liberté est en Christ et en lui seul, parce que lui nous a délivrés par son sang. Libre de réaliser que nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu, que nous sommes destinés à entrer dans la gloire éternelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a aussi la réalité que si nous avons été délivrés de nos péchés par son sang, il y a la réalité que nous sommes encore en présence du péché. Nous sommes encore en présence du péché parce que nous sommes encore dans ce monde. Nous sommes délivrés de la puissance du péché. Nous ne devrions plus pécher puisque nous avons été délivrés de péché. Nous n'avons pas besoin de pécher. Autrefois, c'était quelque chose que nous ne pouvions pas faire. Nous étions esclaves du péché. La seule chose que nous pouvions faire, c'était pécher. Mais Christ est venu. Christ est venu et il nous a, par son union avec lui, délivrés du péché. Il nous a libérés de l'esclavage du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché. L'Esprit œuvre en nous et nous rend de plus en plus ressemblant à l'image du Seigneur Jésus-Christ et nous amène à vivre une vie de sainteté. Mais il y a la réalité du conflit entre la vieille nature qui ne peut rien faire si ce n'est péché et la nouvelle nature en Christ qui, elle, ne peut pas pécher. Et il y a ce conflit et nous chutons. Relisons par exemple Romains chapitre 7. Nous faisons des choses que nous ne voulons pas faire. Ce que nous voulons faire, nous ne le faisons pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans la loi, il y a une loi dans notre corps qui est contraire à la loi de Dieu. Qu'en est-il des épreuves ? Est-ce que nous sommes libérés des épreuves ? Non. Dans ce monde, nous avons encore des épreuves. Et Dieu a décidé que cela sera pour notre bien. Mais nous avons été délivrés de la puissance des épreuves. Ces épreuves qui autrefois enlevaient notre joie, enlevaient notre paix. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir des promesses que Dieu nous donne. Par exemple, en Romains 8, 28, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les choses les plus difficiles, même les choses que nous ne pouvons pas comprendre, même les choses qui sont terribles, qui sont un poids pour un certain temps. Mais nous avons été délivrés de la puissance des épreuves. Nous sommes délivrés par le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et ça, c'est une motivation de venir à Christ, d'aller à Christ. Pourquoi ne pas venir à Christ qui délivre parfaitement son peuple, qui délivre entièrement, qui a accompli cela de manière parfaite? Mais bien sûr, l'homme de lui-même ne peut pas le voir. Il a besoin que l'Esprit touche son cœur pour réaliser cela. Mais Jean se réjouit de cette œuvre de substitution que le Seigneur Jésus-Christ, qui a amené cette œuvre de délivrance. Le Seigneur est venu, il a pris nos péchés et nous a délivrés par son œuvre, par son sang, par sa mort sur la croix. Mais Jean va continuer et il va nous décrire un aspect de la hauteur de l'œuvre du Seigneur, de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus ne nous a pas seulement délivrés de nos péchés par son sang, mais verset 9, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Quand Jean a parlé du sang, de la délivrance par le sang, cela devrait nous rappeler bien sûr la Pâque, la délivrance que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie du peuple, que Dieu a accompli du peuple d'Israël en Égypte. Et c'est une image de notre esclavage du péché. Nous étions comme le peuple d'Israël, esclaves de nos péchés. Mais Dieu a détruit cet esclavage. Comment est-ce qu'il l'a fait? Il a envoyé un ange pour tuer tous les premiers-nés d'Égypte. Il l'a fait, sauf là où il y avait le sang d'un agneau qui avait été badigeonné sur les linteaux des portes sur le peuple, pour le peuple d'Israël. Et tout cela, nous l'avons déjà vu, parle de Christ, le sang qui nous délivre réellement du péché. C'est le sang de l'agneau de Dieu qui a été mis à mort en substitut, en victime expiatoire pour son peuple. Et qu'est-ce qui s'est passé après cette délivrance? Nous avons lu ce passage en Exode 19, où Dieu, au mont Sinaï, se révèle au peuple d'Israël. Et il dit ceci, « Maintenant, je vous avais dit, c'est ces paroles, il fallait bien se rappeler. Il dit, « Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Il y avait une condition. Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez mon peuple et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Il y avait une condition. Il fallait qu'Israël garde, écoute la voix et garde l'alliance. Mais Israël n'a pas gardé l'alliance. Par contre, le Seigneur Jésus-Christ, qui représente l'Église, qui représente son peuple, lui garde l'alliance. Et il la garde pour toujours. Et c'est pour ça que, contrairement à ce que nous lisons en Exode 19, où il y avait une condition, si vous gardez, vous serez pour moi un peuple et un royaume des sacrificateurs. Jean dit ici que Jésus a fait de nous. C'est passé, c'est fait, c'est réalisé. Voilà ce que nous sommes. Voilà ce que Christ a fait. Parce que lui garde l'alliance. Et il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et déjà là, ça va contre l'idée que certains se font aujourd'hui ce que j'appellerais du christianisme individuel. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah ben, ma vie chrétienne, c'est entre Jésus et moi. » Et j'ai ma propre relation avec le Seigneur Jésus, et cela me suffit. Mais pour le vrai chrétien, ce n'est pas possible. Bien sûr, il y a la relation personnelle. Chaque croyant a une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous sommes appelés à être un royaume. Difficile d'être un royaume quand on est un. Nous sommes appelés à être des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et Jean parle ici d'un peuple, d'une nation, de l'Église, du corps qui est là comme royaume, qui est là comme sacrificateur pour Dieu son Père. Donc on ne peut pas se contenter de vivre sa foi simplement seul. Non, c'est ensemble. C'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et tout d'abord, donc, il parle, septième mot, du royaume. Il a fait de nous un royaume. Quand on pense à un royaume, on pense très souvent à une carte qui va représenter les limites du royaume. Mais voilà un royaume qui ne connaît aucune frontière, puisque le peuple de Dieu est composé de personnes de toute tribu, de toute langue, de toute race, de tout âge. Tout peuple sera représenté par la foi dans l'évangile de Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ, par exemple, avait dit à Ponce Pilate. Il avait bien dit qu'il était roi et que son royaume n'était pas de ce monde. Comment est-ce que nous faisons partie de ce royaume? En croyant dans le Seigneur Jésus-Christ, en croyant dans sa parole, en croyant dans son œuvre, on devient citoyen du royaume de Jésus-Christ. Et nous avons lu tout à l'heure, dans ce passage de Colossiens, qu'il y a un transfert d'un royaume à un autre. Colossiens 1, verset 12 et suivant. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il nous a transporté. » Certains d'entre nous, ce matin, ont la double nationalité. Et on peut appartenir, on peut avoir des documents d'une nation ou d'une autre, en fonction de là où on se rend. Mais il n'est pas ici question de double nationalité, huitième mot sur la feuille. Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ n'appartient plus à ce monde. Même s'il est encore dans le monde, il n'appartient plus à ce monde. Il n'est plus attaché à ce monde. Il ne vit plus pour ce monde. Il vit pour son Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous vivons dans ce monde, c'est vrai. Et nous avons des obligations, puisque nous sommes encore dans ce monde. L'obligation évidente, c'est celle de pourvoir aux besoins de sa famille. Nous avons aussi des luttes, nous avons des chutes, nous avons des difficultés. Mais pour le croyant, la réalité, c'est qu'il est avec Christ. Il est à Christ. Il est citoyen du royaume des cieux. Il est le sujet du plus grand roi qui puisse exister, plus grand que David, plus grand que Salomon. Il est sujet du roi des rois. Paul écrira aux Philippiens, chapitre 3, verset 20, que nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons le Seigneur Jésus-Christ. Nos espoirs ne sont plus limités à ce monde. Notre salut ne dépend pas de ce monde, il est en Christ. Et Christ revient. Ici-bas, en réalité, nous ne sommes que des pèlerins en route vers leur demeure glorieuse. Nous sommes citoyens des cieux. Mais les croyants ne forment pas seulement le royaume de Christ. Ils sont aussi ceux qui sont appelés à régner avec Christ. Ils règnent avec Christ. Neuvième mot sur la feuille. Nous régnons avec lui sur nos ennemis. Nous régnons sur le péché. Nous pouvons chuter, oui, nous l'avons déjà dit. Et c'est une réalité. Mais nous ne sommes plus esclaves, nous ne sommes plus sous la domination du péché. Nous en avons été délivrés. Nous sommes revêtus d'un habit qui est royal, qui est la justice parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Avec cet habit avec lequel nous pouvons entrer dans la présence même de Dieu. Nous sommes nourris de la parole, d'une nourriture extraordinaire. Nous sommes aidés par l'Esprit qui vient, qui aide, qui nous aide, qui applique cette parole et qui nous aide dans notre faiblesse. Et Dieu pourvoit à tous nos besoins, selon sa richesse, qui est une richesse infinie, avec gloire et en Jésus-Christ. Et nous verrons plus tard que dans la lettre de l'Apocalypse, il parle aussi d'être assis avec le Seigneur Jésus-Christ sur son trône. Apocalypse 2, 26, par exemple, nous avons ceci: à celui qui vaincra, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Et 3, 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Nous régnons et nous allons régner avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous faisons partie de ce royaume. Nous sommes les sujets de ce royaume. Mais nous allons aussi régner avec le Seigneur Jésus-Christ. Puis la deuxième chose qu'il donne ici, qu'il dit, c'est que Jésus a fait de nous des sacrificateurs, dixième mot sur la feuille, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Et là encore, on retrouve les propos que l'Éternel a utilisés envers le peuple d'Israël en Exode chapitre 19, que nous avons lu tout à l'heure. Les Israélites, s'ils gardaient, s'ils écoutaient la parole de Dieu et s'ils gardaient son alliance, devaient être des sacrificateurs pour Dieu, devaient être un témoignage pour ce monde. Dieu les a séparés du monde, même s'il précise que tous les peuples sont à lui. Il les a séparés et le peuple d'Israël devait être une lumière. Les autres nations étaient étrangères, étaient des gens du dehors, étaient sans espoir, sans Dieu, pour reprendre Éphésiens chapitre 2. Israël devait vivre à la lumière de la présence de Dieu comme étant ses témoins. Mais bien sûr, il ne l'a pas fait. Mais les sacrificateurs dans l'Ancien Testament avaient le droit d'entrer dans le tabernacle pour servir Dieu et grâce au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Nous qui croyons, chaque croyant, a la liberté, onzième mot sur la feuille, la liberté de s'approcher de Dieu de manière encore plus intime, encore plus proche que les sacrificateurs de l'Ancien Testament, puisque pour nous le voile a été déchiré. Nous pouvons entrer dans la présence même de Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Nos vies sont appelées à être des vies saintes, toujours vécues dans la présence même de Dieu, grâce à cette réconciliation que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie pour nous par sa mort sur la croix. Et Jean précise que nous sommes les sacrificateurs pour Dieu, son Père. Il parle ici du service envers Dieu au nom de Christ. Comment est-ce que nous pouvons considérer notre service en tant que sacrificateur? Plusieurs passages qui nous parlent de ce service. Tout d'abord, nous apportons une adoration, douzième mot sur la feuille, une adoration qui est véritable, une adoration qui est en accord avec la parole de Dieu. En Osée 6, verset 6, par exemple, l'Éternel, par la bouche de son prophète, dit qu'il préfère la connaissance. Osée 6, verset 6. Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, les connaissances de Dieu plus que les holocaustes. Comment adorer Dieu en le connaissant? Par la révélation qu'il nous donne, sa révélation de lui-même, par sa parole. Et c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons le dimanche matin, par exemple. Nous sommes là, pas seulement parce que être ensemble, ça nous fait du bien, etc. Non, mais nous sommes là pour accomplir notre rôle, notre service de sacrificateur envers Dieu, pour lui apporter l'adoration véritable, une adoration qui est conforme à sa révélation qu'il nous donne dans sa parole. Nous sommes appelés à être des sacrificateurs et nous sommes en Christ des sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous apportons une adoration qui est véritable. Nous sommes aussi des témoins, 13e mot sur la feuille. Les sacrificateurs représentaient Dieu pour le peuple. Ils rendaient témoignage de sa gloire et de sa grâce. Et c'est le sujet de l'apôtre Pierre dans sa première lettre au chapitre 2 et au verset 9. Il dit ceci, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi ? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple élu. Pourquoi ? Pour annoncer les vertus, pour proclamer le Dieu de grâce qui sauve en son peuple, en Jésus-Christ. Les sacrificateurs ont cette connaissance de Dieu et le représentent auprès du monde. Et nous sommes aussi appelés à représenter, à être des témoins dans ce monde dans lequel nous sommes. Et mais bien sûr, il y a aussi ce passage en Romains 12, verset 1, où l'apôtre Paul, après avoir passé les 11 premiers chapitres à donner un enseignement doctrinal sur ce salut que nous avons en Jésus-Christ, sur cette grâce de Dieu manifestée en Christ. Il commence la partie pratique en disant « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Comment vivre en réponse à l'Évangile, à cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, en offrant son corps, en offrant sa vie comme un sacrifice agréable à Dieu. Les sacrificateurs offraient des sacrifices régulièrement. Et on pourrait dire, mais stop, je croyais que Jésus avait mis un terme à tout cela en offrant son sacrifice. Bien sûr, il a offert son sacrifice pour le salut une fois pour toutes. Mais il y avait d'autres sacrifices. Il y avait le sacrifice de reconnaissance, l'action de grâce. Le sacrificateur versait de l'eau sur l'autel en signe de remerciement, 14e mot sur la feuille, de remerciement envers Dieu. Et nous aussi, nous sommes appelés à verser nos vies comme des sacrifices vivants, à remercier Dieu par la manière dont nous vivons, pour ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ. Mais il est important de souligner ici que quand nous parlons du royaume et de sacrificateur, que Jésus a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, il ne parle pas d'une sélection de personnes. Il ne dit pas qu'il y a des personnes spéciales dans l'Église qui peuvent assumer ce rôle. Non, il s'agit de la réalité de tout enfant de Dieu. Tout véritable chrétien est sacrificateur pour Dieu. Il n'y a pas de différence entre le clergé et les laïcs, comme dans l'Église romaine. Non, c'est anti-biblique de séparer des personnes et de les mettre au-dessus des autres pour qu'ils soient médiateurs entre Dieu et les hommes. Non, tout enfant de Dieu, tout enfant de Dieu est un sacrificateur pour Dieu, son Père. Il n'y a qu'un seul médiateur, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a deux catégories de sacrificateurs. Il y a un seul souverain sacrificateur, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, il y a un royaume de sacrificateurs, qui est le peuple de Dieu, l'enfant, les enfants de Dieu, tout enfant de Dieu, 15e mot sur la feuille, tout chrétien est un sacrificateur pour Dieu, son Père. Bien entendu, il y a des différences, et il y a différents dons, différentes capacités, différentes fonctions dans le sein de l'Église, mais chaque croyant est un sacrificateur pour Dieu son Père. Et nous devons réaliser et avoir conscience de cela. Ce n'est pas un petit groupe qui va louer Dieu. C'est tout le peuple de Dieu qui loue Dieu et qui le remercie pour son œuvre accomplie en Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement quelques responsables qui sont appelés à vivre une vie sainte, à donner leur vie, à offrir leur vie en sacrifice. Non, c'est tout le peuple de Dieu. C'est toute l'Église qui est appelée à être des sacrificateurs et qui sont des sacrificateurs pour Dieu, leur Père. Ensemble, nous sommes rois et sacrificateurs pour Dieu, notre Père. Mais quel est, pour terminer, l'objet de ce premier cantique? Il va mettre en avant la gloire, 16e mot sur la feuille, la gloire et la puissance du Seigneur Jésus-Christ. À lui, à celui qui nous aime, à celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui, à Christ, soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. La gloire, on pourrait traduire par la splendeur, la majesté, la dignité. Par la puissance, on parle de son droit de régner en tant que souverain, lui qui est le prince des rois de la terre. Mais Jean ne dit pas que nous accordons ces choses à Jésus. Non, il les possède par droit. Non, mais nous reconnaissons la gloire et la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Nous lui apportons notre adoration, notre louange, parce qu'il est digne, parce qu'à lui appartient la gloire, à lui appartient la puissance. Et cela rappelle aux églises persécutées du premier siècle et à nous encore aujourd'hui, que celui qui règne, ce n'est pas César. Celui qui règne sur ce monde est le Seigneur Jésus. Lui seul est capable de racheter son peuple, de nous racheter de nos péchés, de nous délivrer de l'esclavage, et il l'a fait. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et notre plus grande liberté, c'est de pouvoir adorer Dieu, 17e mot sur la feuille, d'adorer Dieu en réponse à sa révélation. Nous l'adorons en esprit et en vérité. Nous avons cette liberté de venir devant lui, cette liberté que nous avons en Christ, d'entrer dans la présence même de Dieu et de l'adorer parce qu'il en est digne. Sommes-nous conscients de ces privilèges? Jésus a fait de nous un royaume. Il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Est-ce que nous vivons comme des sacrificateurs pour Dieu notre Père? Et là, nous revenons au début du verset 4. Nous avons besoin de la grâce et de la paix. Nous n'avons aucune force en nous-mêmes. Nous n'avons aucune énergie en nous-mêmes. Nous avons besoin que cette grâce et cette paix nous soient données. De la part de Dieu le Père, de la part de Dieu l'Esprit, et de la part de Dieu le Fils. Celui qui est le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Que Dieu nous aide à saisir cela et qu'il nous aide à nous réjouir de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait de nous, pour nous, qu'il nous aide aussi, qu'il nous accorde sa grâce et sa paix afin que nous vivions pour lui, remplis de l'Esprit, dépendant du Seigneur Jésus-Christ à tout instant, qu'il nous aide à le vivre pour sa gloire. Amen.